Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique qui revient un an après sur les drames de Charlie Hebdo et d'Ilhi Perkacher, tragédies qui ont ouvert l'année 2015 en France et qui ont pris une dimension accrue quelques mois plus tard avec les fusillades dans Paris du 13 novembre. Le terrorisme a bouleversé la France en 2015, même si bien sûr notre pays n'a pas été la seule victime d'attaques du même genre. Regard sur ce que ces attentats ont changé, ce qu'ils révèlent de la façon dont notre pays est perçu, l'Europe plus largement, les mutations en cours et la façon dont elles sont prises en compte. Nos invités, Jean-François Daguzon, directeur adjoint à la Fondation pour la Recherche Stratégique, directeur de la revue Maghreb Machrek, auteur de plusieurs ouvrages, dont La fin de l'État-nation, point d'interrogation de Barcelone à Bagdad, paru aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Folleroux, journaliste au quotidien Le Monde, auteur de nombreux ouvrages, dont Démocratie sous contrôle, La victoire posthume d'Oussama Ben Laden. Jacques Folleroux, qui est spécialiste des questions sécurité et terrorisme. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense et membre du CREDOF. Bonjour.
Bonjour.
Les attentats du 7, 8 et 9 janvier de l'année dernière ont un temps fait croire aux Français que les terroristes avaient des cibles bien précises, des journalistes, des caricaturistes, représentants de l'État ou membres de la communauté juive. Et puis avec ceux du 13 novembre est venue une autre prise de conscience, sorte de réveil, faisant comprendre que finalement c'est l'ensemble de la population qui est une cible potentielle. Le danger a d'une certaine manière muté. Comment voyez-vous les uns et les autres ce qui s'est passé? Quelle lecture faites-vous des événements de 2015 et quel lien finalement entre janvier et novembre 2015? Jean-François Daguzon.
Je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'extrêmement important qui est justement ce que vous soulignez à l'instant même, cette espèce d'arbre qui a, de Charlie hyper cacher qui a cacher la forêt du terrorisme tel que nous le vivons aujourd'hui, mais qui ne date pas d'hier, parce que la réalité est que la France est une cible pour les djihadistes avant même qu'on ne leur donne ce nom, c'est-à-dire dès les années 1990 et les attentats des GIA en France. Et je dirais dans la vulgate communicationnelle des différents groupes, je pense au GIA puis au GSPC algérien qui est devenu ensuite Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda, noyau central lui-même, etc., etc. Mmh. Vous avez en régulier, depuis 15 ans, un discours sur la France doit être l'objet d'attaques terroristes puisque elle se place au cœur de ses principaux, de nos principaux ennemis vus du côté des djihadistes. Donc il n'y a à la fois rien de nouveau sous le soleil et l'effet de sidération, encore une fois, reste souvent incompréhensible et notamment de la part des pouvoirs publics parce que cette menace-là a toujours existé depuis 15 ans et que il faut aussi rappeler que les services, avant d'être dépassés par l'effet peut-être de nombre, démantelaient 2 à 3 tentatives d'attentats terroristes majeurs sur notre sol. Donc, on est revenu finalement après Charlie et les dramatiques événements du 13 novembre à l'expression d'une réalité que nous avons peut-être pas voulu voir dans sa dimension, qui est que nous sommes une cible majeure et que cette cible majeure prend tous les aspects, les aspects les plus variés, de l'acte symbolique de ceux qui font des caricatures à ceux qui font la fête dans des lieux publics ou dans les terrasses des bistrots. Voilà. Et cette globalité, désormais, c'est le pain quotidien avec lequel il va falloir apprendre à vivre.
Serge Slama.
Oui, moi je pense qu'il y a vraiment un élément commun très fort entre les deux attentats du 7 janvier et du 13 novembre, c'est l'atteinte à la liberté, à nos valeurs, à la valeur de la démocratie, aux valeurs de l'état de droit, la liberté au sens de la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a un droit naturel imprescriptible. Au moment de Charlie, ce qui est visé, c'est la liberté d'expression, c'est le droit de blasphémer. Au moment du 13 novembre, c'est tout simplement la liberté de vivre comme on le souhaite, de vivre dans notre démocratie selon notre mode de vie et voilà ce qui est attaqué, c'est-à-dire c'est vraiment l'état de droit, la démocratie, des valeurs françaises attachées à cette liberté.
Jacques Vollerot, vous partagez ?
Écoutez, c'est vrai que le terrorisme n'est pas une nouveauté en France, comme l'a rappelé M. Danuzan, mais que la séquence la plus cohérente par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, moi je la situerais vraiment depuis les attentats du 11 septembre
2001
aux États-Unis. Donc on est vraiment sur une séquence, donc 2001-2015, donc 15 ans, où là il y a un certain nombre d'éléments communs. Donc je veux dire, la France aujourd'hui, depuis un an, depuis janvier dernier, est confronté, en prend conscience directement, est frappé directement de façon massive. Mais cette problématique-là, sur comment on réagit à ce type d'attaque, quelles sont les conséquences pour nos démocraties, comment est-ce qu'un État démocratique se défend face à une telle menace, c'est vrai que c'est une réflexion qui est déjà en cours. Elle avait d'ailleurs, avant que n'interviennent ces attentats sur le sol français, c'était d'ailleurs déjà inscrit dans notre paysage une forme de droit d'inventaire sur ce qui avait été fait au nom de la lutte antiterroriste, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que, par exemple, l'irruption de l'affaire Snowden avait montré comment les excès d'une réaction d'un État qui, au nom de l'antiterrorisme, finalement transformait une société en société de surveillance, à l'insu de sa population, faisant reculer les contre-pouvoirs, les contrôles, le contrôle démocratique, celui des élus, mais aussi celui souvent des politiques eux-mêmes. Et si vous voulez, là on est revenu sur une séquence très émotionnelle, avec une réponse souvent dans l'urgence. Je pense qu'on va évoquer justement quels sont ces éléments de réponse. Et je terminerai juste par un point, c'est que la différence, telle que je la comprends en travaillant sur ce sujet, la différence entre notamment les attaques de Mohamed Merah, de Nemouche, et même de certaines manières Kouachi et Koulibaly de janvier dernier, les attentats de novembre, ces attaques, d'une certaine manière, si on rentre un peu dans la technique, nous ramènent à une époque ancienne d'un terrorisme organisé. C'est-à-dire qu'on n'est plus confronté à des irruptions individuelles, je veux dire incontrôlées, des initiatives personnelles dont on ne connaîtrait pas l'origine. Là, on est confronté à une organisation, à une forme de terrorisme, entre guillemets, d'État. Et d'une certaine manière, peut y avoir un petit élément positif à tout ça, c'est-à-dire que nos États, nos sociétés sont davantage armées et structurées mentalement, ont le logiciel pour affronter ce type d'organisation. Parce que là, il a fallu, ça a été commandité, ça a été organisé de Syrie, il y a eu des allées et venues, il y a eu tout un financement, une organisation. D'une certaine manière, peut-être que le curseur se déplace et revient sur un type de terrorisme que nos États ont réussi à combattre.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, terrorisme organisé, Jacques Vollerot le disait à l'instant, je me tourne vers vous, Jean-François Daguzan. On a parlé de changement de cible entre les attentats de janvier et ceux de novembre 2015, mais finalement, on est dans une logique, et Jacques Vollerot évoquait les actions de Merah, Nemouche, qui ont précédé tout cela. Finalement, alors on a beaucoup reproché au lendemain de Charlie que les questions que nous aurions dû nous poser, nous ne les ayons pas posées, mais finalement, tout cela est largement antérieur.
Tout est antérieur et, si vous voulez, ce à quoi on assiste d'une certaine manière pour des raisons d'abord tactiques, c'est justement cette fluidité du terrorisme qui s'adapte aux réponses de l'État, des services, etc. On est sorti de l'ère que nous avons connue pendant des années de l'attentat à la voiture piégée ou la bombe dans le métro, pour passer à un mode d'action qui est beaucoup plus flexible, qui est l'attaque à main armée, que l'on a connue de toute éternité aussi, mais finalement qui s'employait peu ces derniers temps, en France bien entendu, ou en Europe. Et donc ça a commencé avec Merah, l'assassin avec ses pistolets, pour aller à la Kalachnikov du 13 novembre et de Charlie. Et avec un élément central que l'on a commencé à voir apparaître dès les années 2005-2006, qui a été, avec un certain nombre d'idéologues tacticiens qui ont aidé à construire, l'anthropologie terroriste de Daesh, notamment, qui est finalement, débrouillez-vous avec ce que vous avez, mais faites le plus de mal possible autour de vous. Et donc, il y a effectivement, d'un côté, la main qui conduit, tel que ça a été évoqué par Jacques Vollerot, avec effectivement une organisation grâce à l'implantation de Daesh en Syrie, en Irak, surtout en Syrie dans le cas qui nous concerne, et des missionnaires envoyés frapper la France, mais également un discours qui dit saisissez-vous vous tout seul d'une arme potentielle et allez frapper qui vous pouvez. Et ça, c'est l'autre danger auquel nous sommes confrontés, qui est à la fois un effet mimétique, un effet d'imitation et un effet revendiqué par les terroristes eux-mêmes, qui est que le candidat potentiel a toute latitude à se saisir du sujet et à le traiter, si je peux utiliser cette métaphore là. Donc on a les deux à la fois, et c'est ça pour moi le vrai danger et la grande nouveauté, c'est que d'un côté il y a ceux qui ordonnent et de l'autre côté il y a cette prime laissée à l'imagination de l'assassin. Et ça, mais c'est très dangereux.
L'assassin qui s'implique directement dans l'attentat, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus des explosifs dans une poubelle dans les rues à Paris. Donc il y a la notion de sacrifice, de martyr qui vient ajouter une dimension nouvelle, Jacques Follereau.
Ça, ce sont des modes d'action qui sont connus depuis longtemps, loin de chez nous, mais en Afghanistan, en Irak, etc. Donc des attaques dites complexes qui sont mises en place, développées par justement des gens qui savent qu'ils sont technologiquement moins forts que la puissance en face, moins de moyens de militaires, de renseignements, d'écoute, etc. Et donc qui vont utiliser, comme le rappelait M. Daguzan, les moyens qui sont à leur portée pour faire le maximum de victimes en face. Et c'est vrai que c'est notamment ce qui s'est passé lors des attaques du 13 novembre, où on a eu l'importation directe de ce qui se fait depuis déjà des années en Afghanistan, en Syrie ou en Irak.
Alors est-ce qu'on peut dès lors parler de la naissance d'un djihad français ? Après ça, on abordera la façon dont le gouvernement français réagit à ces actions sur le djihad français. Serge Lama ?
Moi, je voudrais surtout réagir sur l'idée de terrorisme d'État. Je ne suis pas convaincu par cette idée parce que d'abord, on n'a pas un État en face de nous. Alors peut-être que j'ai une réaction plutôt de juriste.
L'État islamique n'est pas
Daesh
un État.
Daesh n'est pas un État. Et on n'est pas dans une déclaration de guerre d'un conflit entre États. Si c'était un conflit entre États, ça serait beaucoup plus simple de quelque part. Et les attentats terroristes sont pas de type rue des Rosiers ou Karachi où c'est un État qui manipule des personnes. C'est des personnes qui se revendiquent de cette entité assez complexe, qui se revendiquent de ce djihadisme, qui se revendiquent de cette idéologie, mais qui en même temps, comme ça a été dit, ce sont des missionnaires, c'est un caractère diffus. Et c'est en ça où il est dangereux, parce qu'il est difficile à identifier, à neutraliser. On voit très bien, on parlera plus tard de la déchéance, mais le problème il est bien là, c'est que c'est des personnes qui sont françaises, qui viennent d'ici, qui ont été radicalisées par différents médias, etc. On n'est plus dans une logique où c'est un État central qui va donner l'impulsion pour commettre les attentats terroristes. La menace est beaucoup plus diffuse pour cette raison-là, elle est difficile à appréhender.
Alors je précise peut-être mon propos, c'est-à-dire que j'entends bien que l'État islamique n'est pas, au sens juridique du terme, un État reconnu par la communauté internationale. Néanmoins, on a véritablement affaire à une entité, pour reprendre votre terme, organisée, même très organisée. Rien ne se fait au hasard. Rien. Et on l'a vu, ça, depuis 2012-2013. Chaque décision importante qui a saisi d'effroi l'Occident, à commencer par les otages qui ont été jusqu'à ce que les États-Unis frappent les colonnes de l'État islamique qui remontaient vers le nord de l'Irak, ça n'était qu'une monnaie d'échange. Ils ont commencé à les décapiter, les assassiner. À partir du moment où les États-Unis ont commencé à frapper, à partir du moment où la coalition internationale a commencé à bombarder leur propre convoi. Donc on voit bien que c'est une création d'un rapport de force. Ensuite, et je reviens très précisément, justement peut-être pour affiner mon propos, c'est-à-dire que pourquoi il semble qu'on est là, spécifiquement sur les attaques du 13 novembre, qu'on soit confronté à une forme d'organisation qui nous ramène à un terrorisme d'antan, c'est parce que on est bien sur une situation où ce sont des cadres francophones, français, de l'État islamique, qui sont missionnés, peut-être avec un cahier des charges assez général, mais voilà, vous allez frapper là-bas, faire avec tel objectif, vous allez passer vraisemblablement par la Belgique, vous allez attaquer le sol français, tous les éléments, si vous voulez, on peut revenir dans le détail, justement sur même l'organisation interne de l'État islamique, où ils ont fonctionné par pays, par langue, donc les francophones sont ensemble, vous avez des gens qui montent dans la hiérarchie de l'État islamique, donc si vous voulez, la dimension organisée, je pense qu'elle est avérée, et aujourd'hui elle est démontrée. Ça n'enlève pas ce que vous avez souligné, c'est-à-dire qu'il y a aussi ça n'exonère absolument pas la société française de faire un examen sur les racines, ses propres racines de ce djihadisme français. Ça n'exonère en aucune manière l'examen précis des parcours individuels français et des individus en pleine déroute.
Jean-François Daguzan.
Oui, je crois que ce qui est important à rappeler, c'est que si l'État islamique n'est pas un État, il se pense comme tel.
Et il souhaiterait être
oui,
traité
voilà. Alors,
comme un
d'ailleurs,
État.
Il essaie de le faire, battant monnaie, dirigeant l'ordre public sur les territoires qu'il conquiert, essayant d'avoir une politique étrangère. Mais au-delà de ça, le fait de se penser en tant qu'État, justement, l'amène à agir, même si nous lui dénions effectivement cette qualité, à agir comme tel. Mais ça ne date pas là non plus d'hier. Al-Qaïda, à l'ancienne, avait fait exactement pareil. Quand vous preniez la Vulgate d'Al-Zawahiri et de Ben Laden, les grands textes fondateurs comme Compagnons sous la bannière du prophète, etc., vous avez le même discours en disant si vous nous attaquez, nous vous répondrons et nous vous répondrons avec des armes de destruction massive, disait-il. Vous voyez, par exemple. Donc il y a cette revendication d'emporter un État virtuel avec eux qui est cet État islamique spécifique qu'ils ont réinventé ou inventé puisqu'il n'existait même pas avant. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a une construction communicationnelle qui s'établit par rapport à ça. Après, à nous d'accepter d'en tenir compte ou pas, nous récusons évidemment leur légitimité, mais elle s'exprime par l'action qu'ils conduisent vis-à-vis de nous. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte.
Alors, juste une précision pour nos auditeurs, les attentats de janvier étaient davantage revendiqués par l'ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique,
absolument.
Alors qu'il a davantage été question de l'État islamique dans les opérations terroristes de novembre dernier.
Oui, mais là aussi, si vous voulez, il ne faut pas, si vous voulez, que l'arbre cache la forêt ou que, selon le vieux principe chinois, le naïf regarde le doigt alors qu'on lui montre la lune, si vous voulez. C'est que, globalement, que ce soit Daesh, Al-Qaïda ou Al-Qaïda dans la péninsule arabique ou qui vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance sur le fait que les assassins, c'est-à-dire les nôtres, les Français, les Français et les Belges dans les affaires qui nous occupent, se revendiquent d'une idéologie globalisante à but totalitaire qui prend des formes diverses. Peut-être qu'on détruira Daesh et vraisemblablement on éliminera Daesh. Mais de toute façon, le terreau de l'idéologie islamique radicale armée va durer.
Il est lancé, il est là
et nous l'avons avec nous pour une durée indéterminée. Et à partir de là, si vous voulez, je crois que c'est comme ça qu'il faut penser la lutte. C'est pas en disant on va détruire Daesh à coups de bombardement et de rafales. C'est comment traiter le problème de cette idéologie vis-à-vis d'une partie de la population française, certes extrêmement minoritaire, mais qui pose un problème majeur de relations au sein même de notre pays, qu'elles soient sécuritaires ou politiques ou sociales.
Alors il nous reste 2 minutes pour terminer cette première partie d'émission. Serge Slama et ensuite Jacques Folleroux.
On n'est pas plus en présence d'une nation que d'un État en réalité. C'est-à-dire leur vocation, c'est refaire l'Oumma, la communauté des citoyens. Bon, il y a cette idée-là, la communauté islamique, le califat, etc. Et donc on est plus dans l'idée de nation, donc qui serait transfrontière, transétatique, et c'est bien ça. C'est là où c'est en danger. Et je crois qu'ils ont envie d'être... ils sont mininaristes. Hein. Leur objectif, c'est justement qu'on les écrase et de pouvoir proclamer... Enfin bon. Donc il y a vraiment une idée ici. Ils cherchent le péril. Ils cherchent à ce qu'on les combatte. Ils cherchent à ce qu'on aille faire la guerre là-bas. Ils cherchent justement la guerre et l'affrontement, comme ils disent, des civilisations.
Sur un registre de victimisation, Jacques Folleroux.
Oui, non, sur les filiations des frères Kouachi, etc., par rapport aux organisations terroristes étrangères. C'est-à-dire qu'on a plutôt vu sur janvier une espèce de fonctionnement sur des franchises. C'est-à-dire que les frères Kouachi, l'un des deux a en effet été au Yémen. On est sur des gens qui se connaissent, des réseaux de Français, de Parisiens, qui se connaissent depuis la filière des Buttes-Chaumont. Donc on est sur 2003-2006. Ouais. Par ailleurs, en Suisse, en effet, ces gens-là ont été se colter un peu avec des historiques, des cadres djihadistes internationaux algériens, passé par l'Afghanistan, etc. Et en revanche, rappelez-vous quand même que pour janvier, Hamidi Koulibaly se revendique plus ou moins sérieusement de l'État islamique. Donc là, on est en janvier. En revanche, là, sur les attaques du 13 novembre, on est vraiment sur quelque chose de très structuré, Syrie, État islamique. On est sur des cadres, sur des francophones qui ont été se battre et se former en Syrie.
Donc, mois après mois, une structuration qui se fait de plus en plus prégnante. Pour terminer cette première partie, Jacques Folleroux.
D'où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression de revenir vraiment sur... On est confronté à une très grosse entité organisée qui s'appelle État islamique et qui porte la violence à l'extérieur de son territoire.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-François Daguzon, Jacques Folleroux et Serge Slama dans quelques instants. À tout de suite. Thank you.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-François Daiguzon, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, directeur de la revue Maghreb Machrek, auteur de plusieurs ouvrages dont La fin de l'État-nation, point d'interrogation, de Barcelone à Bagdad, paru aux éditions du CNRS, Jacques Folleroux, journaliste au quotidien Le Monde, auteur de nombreux ouvrages dont Démocratie sous contrôle, la victoire posthume d'Oussama Ben Laden, Jacques Folleroux qui est spécialiste des questions sécurité et terrorisme, et Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Ouest Nanterre et membre du CREDOF. On parle aujourd'hui du profond malaise qui s'est installé dans notre pays, de la peur qui nous envahit, des principes que nous sommes prêts à sacrifier pour davantage de sécurité, de nos valeurs muselées. Est-ce qu'une nouvelle France a surgi, comme certains l'affirment, une France dangereuse? Et comment, plus largement, évaluez-vous la réaction du pouvoir? Et qu'est-ce que vous pensez de la politique de François Hollande en matière de lutte antiterrorisme? Qui veut répondre? Jacques Folleroux.
La France, elle est confrontée à cette violence après les États-Unis, après la Grande-Bretagne, après l'Espagne. D'une certaine manière, on a envie de dire que il y a un certain nombre de leçons qui n'ont pas forcément été tirées. Alors, évidemment, il faut être très prudent. Ce sont des sujets très complexes, avec des responsabilités, celles des politiques qui sont importantes. Mais tout de même, il est difficile de ne pas avoir une forme de précipitation. Et que, à défaut de pouvoir traiter une réalité complexe, celle de ce terrorisme, de ce djihad massif sur un territoire tout proche, qui est l'Irak, la Syrie, à défaut de pouvoir détecter, d'anticiper cette menace qui frappe le sol français, à défaut de finalement de pallier à tous nos manques, aux erreurs passées, etc., on répond dans l'émotion. Les pouvoirs publics répondent à cette émotion en se coupant des membres, c'est-à-dire qu'en faisant reculer des contrepoids démocratiques, en reniant des valeurs fondamentales de cette démocratie qui est tant haïe et honnie par ceux qui frappent. C'est pour ça que, si vous voulez, aujourd'hui, à l'écoute des annonces successives, de la surenchère de réponses sécuritaires, on a envie de dire, mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi pas davantage de sang-froid? Pourquoi pas davantage de discours plus réalistes en disant, nous sommes confrontés à une réalité complexe, on va faire le job, on touchera pas aux libertés et à ce que c'est fondamentalement démocratie, mais il faut que chacun prenne une part, assume une part de ce courage. Et c'est vrai que globalement, c'est assez frappant sur l'année qui vient de s'écouler.
Jean-François Daiguzon, Serge Slama, vous partagez, Serge Slama?
Sur le constat global, on est dans un processus assez inquiétant, parce que bon, d'abord, il faut dire que c'est normal qu'un état de droit se défende contre ses ennemis. Et une démocratie est faible si elle n'a pas des instruments pour se protéger, pour protéger l'état démocratique. Mais ce qui est inquiétant dans le système qu'on a, c'est qu'à chaque attentat terroriste, on a une nouvelle loi antiterroriste et on a une surenchère. On voit très bien qu'au moment même du 13 janvier, il y avait déjà une loi terroriste qui venait d'être adoptée. On en adopte une autre. Il y a un effet levier pour adopter la loi sur le renseignement, qui est en fait une réaction à l'affaire Snowden, très clairement. C'est-à-dire, l'idée, c'est de légaliser des pratiques qui existaient déjà et les généraliser. Et là, on revoit, on va sûrement en parler, mais on déclare l'état d'urgence, qui en soi est pas critiquable, mais ensuite, on constitutionnalise l'état d'urgence et on envisage la déchéance et on envisage, dans un ou deux mois, une nouvelle loi qui va accentuer le phénomène de, on sort le juge judiciaire, qui est pourtant le plus protecteur dans une démocratie de la liberté individuelle, et on donne des pouvoirs de plus en plus importants à l'administration, à la police, en dehors de tout contrôle juridictionnel réel. Et ça, c'est un phénomène qui est très inquiétant, parce que on est en train d'abandonner nos garanties, la séparation des pouvoirs, et moi je pense qu'on peut lutter contre le terrorisme en respectant nos valeurs, en respectant les garanties d'état de droit, ou sinon on s'affaiblit en réalité.
Donc ce qui est reproché, Jean-François Daiguzon, c'est finalement une politique de millefeuille, c'est-à-dire qu'à chaque fois quelque chose vient se rajouter sans qu'il y ait des gonflements, je veux dire une mesure qui est prise et s'engager dans une mesure est beaucoup plus facile finalement que de s'en désengager.
Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Folleroux et Slama. Nous rentrons dans une logique que les Américains se sont employés à tester et dont on a pu voir les limites ou les dérives depuis 15 ans, et avec une inquiétude également sur cette espèce d'état d'urgence permanent qu'on semble vouloir nous imposer. Et Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un qui lutte contre l'ordre et qui n'est pas prêt à prendre des mesures radicales contre les terroristes, mais j'ai bien peur que nous rentrions dans une espèce de contre-productivité, finalement, de l'état d'urgence permanent. Mmh. Et on l'a déjà testé. Mmh. En 1957, on l'a testé, on l'a fait pendant notre guerre d'Algérie, oui. où on a essayé de traiter la question du terrorisme et du FLN en Algérie par les mêmes moyens. Mmh. Ça a marché. Au plan tactique, évidemment, ça s'est terminé en désastre politique. Mmh. Et le risque fondamental que nous courons là, c'est bien cette espèce de modèle d'état d'urgence permanent qui va, d'une certaine manière, contribuer à faire le lit de la communication des terroristes. Mmh. En disant, mais écoutez, je vous l'avais bien dit, puisqu'ils se conduisent exactement comme nous, à travers l'état d'urgence, la répression, les arrestations arbitraires, etc. Donc, le risque fondamental, c'est quoi? C'est Guantanamo, entre guillemets, et l'absence de garantie juridique des libertés publiques.
Ce qui est assez frappant, c'est que, en effet, surtout sur la séquence, sur l'année qui vient de s'écouler, l'État dit, écoutez, pour être efficace, il faut mettre à l'écart le juge judiciaire. Comme si le juge judiciaire, de certaine manière, était responsable de cette violence terroriste. Alors que quand on parle avec les spécialistes d'antiterrorisme, que ce soit d'ailleurs des policiers, de police judiciaire ou des magistrats, ils disent, mais on est largement armé aujourd'hui pour le terrorisme, sur un terrain juridique et pénal. Vous avez 86, la loi antiterroriste qui crée une compétence nationale, donc qui crée le cadre. 95, la création, donc la définition de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et le troisième texte, c'est 2001, c'est pour lutter contre le financement terroriste.
Tout ça pour dire que, en fait, la France disposait, avant ou jusqu'aux attentats de 2015, du système d'un régime pénal de lutte antiterroriste qui était considéré comme l'un des plus efficaces au monde.
Alors, l'un des plus efficaces, et puis on est aussi confronté à une idée qui encore occupe tous les esprits au sein de l'État. C'est-à-dire que nous avons un modèle qui, d'après les services et d'après l'État, qui était un modèle intégré entre renseignement et judiciaire, entre les mains du contre-terrorisme, du contre-espionnage. Donc aujourd'hui, c'est la DGSI, avant c'était la DCRI, avant la DST. Donc il y a compétence à la fois, c'est un service de renseignement, mais c'est aussi il y a compétence judiciaire. Et donc, en gros, si vous voulez, il y a un tabou en France qui dit, écoutez, entre 96 et 2012, il n'y a pas eu d'attentat grâce à ce modèle. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a d'un côté, en effet, une surenchère sur l'attribution à l'État de pouvoirs discrétionnaires de plus en plus importants, sans contre-pouvoir, sans contrôle. Et de l'autre côté, il n'y a pas véritablement de droit d'inventaire, de discours, de face-à-face avec qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur le modèle renseignement judiciaire antiterroriste. Est-ce que le grand soir de ce face-à-face avec le terrorisme, est-ce qu'il est vraiment, il a été engagé? La réponse est non, parce que vous avez des poids structurels, administratifs, très très forts, et aussi des considérations tactiques. En clair, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui est complètement éclaté. Vous avez la DGSE, qui est le service de renseignement extérieur, qui a toute une cellule de contre-terrorisme, mais qui pêche en matière de coopération avec l'étranger, parce que c'est un service offensif. Donc c'est compliqué. Les États étrangers, à part les États-Unis, etc., les partenaires habituels, mais tous les autres ne collaborent pas si facilement. Vous avez une autre composante antiterroriste au sein du contre-espionnage français, donc la DGSI, mais eux, ce service, il est partagé entre ce qu'ils appellent le CE, le contre-espionnage, et le CT, le contre-terrorisme. Et là, la lutte antiterroriste au sein de ce service pêche cette fois-ci par une culture du secret, une grande culture du secret qui complique. Et donc, si vous voulez, on pourrait continuer comme ça, vous décrire point par point les failles du système, mais je n'ai pas la réponse définitive à tout cela. Mais est-ce que cette réflexion sur le grand soir, la réorganisation des moyens dont dispose la France aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme, elle n'a pas été engagée? En Angleterre, après les attentats, je crois que c'est 2005, si je ne m'abuse, il y a eu une très forte réorganisation, c'est-à-dire que l'État britannique a dit, nous confions au MI5, qui est le contre-espionnage, la charge entière de la lutte antiterroriste, et ils ont tout regroupé dans ce service-là. En France, ça n'a pas été fait, et on va plutôt déclarer l'état d'urgence, etc.
Ouais, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est une remise à plat de tout le système qui serait nécessaire, et qu'on l'évite, en tout cas pour l'instant. Serge Slama.
Je voudrais réagir par rapport aux deux dernières interventions. D'abord, sur la logique d'escalade dans le cadre d'un état d'urgence, le précédent algérien est très intéressant, parce que la loi de 55 est adoptée pour l'état d'urgence en Algérie, et lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, en fait, l'état d'urgence est déclaré, et il est prolongé pendant près de 3 ans, par par différents procédés, sans passer devant le Parlement d'ailleurs, par des ordonnances. Il faut voir les mesures qui ont été adoptées à l'époque, c'est-à-dire on a été création de camps, juridiction d'exception, etc. Enfin, donc tout ça, parce que évidemment on est dans une logique d'escalade, puisqu'on est dans un état d'exception sans contrôle. Et à l'époque, il n'y avait absolument aucun contrôle judiciaire. Aujourd'hui, il y en a un du juge administratif qui est insuffisant, mais il existe tout de même. Et puis ensuite, en termes d'efficacité de cet état d'urgence, le confrère de Jacques Fouleroux, Laurent Borédon au Monde, a fait un observatoire de l'état d'urgence où il mesure très concrètement l'efficacité des mesures d'état d'urgence. Il y a plus de 3000 perquisitions, il y a plusieurs centaines d'assignations à résidence. Quels sont les résultats? Deux procédures judiciaire ouverte en matière de terrorisme.
Et très peu d'armes découvertes, peu, là aussi.
Il y a des armes découvertes,
que...
mais concrètement, on voit très bien qu'il y a un effet levier pour les préfets, où ils utilisent l'état d'urgence pour s'attaquer à la petite délinquance. Donc évidemment, il y a des saisies de drogue, d'armes, enfin c'est une petite délinquance qu'ils ont du mal à appréhender d'habitude. Donc là, ils tapent dans cette délinquance-là. Mais ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Et même en termes d'efficacité, sur l'ensemble des perquisitions administratives, il y a 20% de procédures judiciaires. Donc dans 8 fois sur 10, ils se trompent en fait. Ils tombent sur des gens où ils ne trouvent rien. Tout ça a une efficacité très très limitée contre le terrorisme. Ça a une efficacité ailleurs, mais pas contre le terrorisme. Et le problème, c'est que les projets de loi qui sont en train d'être préparés, alors à la fois la constitutionnalisation de l'état d'urgence, la déchéance, mais aussi le texte qui arrive... On est en train de mettre toutes ces législations d'exception qui évincent le juge judiciaire et qui renforcent les pouvoirs de l'administration dans le droit ordinaire. Et donc, qu'est-ce que va être demain l'état d'urgence? Parce qu'une fois qu'on a fait passer, par exemple, les assignations à résidence sous bracelet électronique, par exemple, dans la législation ordinaire, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'état d'urgence?
Jean-François Déguzan.
Oui, à cela, il faut rajouter la déstructuration des services telle qu'elle s'est effectuée en l'espace de 7-8 ans à travers les restructurations administratives et politiques qui ont été faites.
Pour cause d'économie financière
Alors, il y a les deux. Sous le quinquennat Sarkozy et après, c'est-à-dire la création de la DGSI qui a dissous d'une certaine manière les renseignements généraux qui joueraient un rôle majeur dans le suivi des mouvements islamiques, par exemple, et qui ne s'en est jamais relevé, même si on essaye maintenant à marche forcée de le remettre. Une culture qui était évoquée justement tout à fait particulière de l'ancienne DST pour laquelle le contre-terrorisme n'était toujours que le parent pauvre d'un service pour qui la noblesse était de lutter contre les espions. Et désormais, des guerres de chapelle qui en sont ressorties, qui jouent un rôle extrêmement néfaste. Aujourd'hui, le directeur de la DGSI, qui était autrefois sous le contrôle du directeur de la police nationale, est exactement au même niveau que lui, d'où une guerre de chapelle entre la police, entre guillemets, normale et les services de sécurité intérieure, auxquels vous rajoutez également, dans l'affaire parisienne, la bataille de toute éternité avec la préfecture de police de Paris et ses propres services. Et une DGSE, comme le rappelait Jacques Fouleroux, qui joue, je dirais, sa partition de son côté, mais selon une tradition, elle aussi très ancienne. Ça avait pu être traité il y a quelques années par des grands coups de poing sur la table comme avait pu le faire Jacques Chirac à partir des années 86, 85, 86 et les attentats qui avaient touché la France à ce moment-là avec la création de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, l'UCLAT, qui désormais a été quasiment complètement marginalisée par ces grands diplodocus administratifs et renvoyée à la lutte contre la radicalisation et la déradicalisation. Alors que cette unité avait pour fonction justement d'assurer cette coordination-là et en faisant un boulot tout à fait exceptionnel. Donc tout cela a fait que le modèle français qui avait été hyper cohérent et hyper efficace s'est considérablement affaibli.
Jacques Fouleroux.
On voit bien que finalement la réponse des pouvoirs publics à ces attaques de 2015, c'est un mélange, comme on l'a dit, de davantage de pouvoirs discrétionnaires, de répression et de renseignement. Le paradoxe de tout cela, c'est que la France, comme les principaux d'ailleurs pays occidentaux, ne manque pas de renseignements. Il y en a foison. Il y en a même trop.
Oui.
C'est-à-dire que ce renseignement, qu'est-ce que c'est? C'est souvent aujourd'hui de l'interception, d'interception technique. Bon, c'est toutes les informations qui transitent par les ordinateurs, par les téléphones, par tout ça. Et si vous voulez, le problème aujourd'hui, il est de détecter au sein de cette masse colossale de renseignements, y compris concernant les zones de conflit, de trouver l'information qui fait sens et qui est utile. Et on le voit, si vous voulez, le symbole de tout ça, c'est quand même que l'intervention dans l'appartement de Saint-Denis, elle est quand même initiée par un appel sur le numéro vert. en aucune manière d'une perquisition, d'une assignation, d'une interception téléphonique ou d'interception du flux Internet.
C'est venu de quelqu'un pour signaler...
Donc on est revenu sur quoi ? Sur un renseignement humain. Alors c'est une réflexion qui est déjà ancienne, mais si vous voulez, aujourd'hui, parce que c'est plus pratique, parce que ça rassure le politique, parce que ça, on a l'impression que ça réduit l'incertitude et que ça scientifie un peu le travail, la protection d'un pays et d'une population, on va aujourd'hui, on a d'ailleurs légalisé, la loi sur le renseignement l'a fait, l'interception massive de renseignements, la collecte massive de données personnelles, et qu'on on s'aperçoit bien que ça permet très rapidement de remonter, si vous voulez, sur les auteurs d'un acte, mais après qu'il ait été commis. En revanche, ça ne permet pas de l'anticiper. Et là, on revient sur un travail qui doit être fait depuis longtemps, c'est-à-dire c'est le travail humain, l'infiltration des réseaux, qui sont vraiment une menace.
Donc il y aurait un exemple à prendre, vous le citiez tout à l'heure, Jacques Foulroux, c'est sur le système anglais, avec comme exemple finalement de système étranger efficace qui pourrait inspirer la France. Alors une autre mesure, Serge Slama, je me tourne vers vous. La question, on l'a évoquée très rapidement, on y passe quelques instants maintenant, de la déchéance de la nationalité pour les binationaux, un commentaire ?
Alors là, justement, il ne faudrait pas imiter le modèle anglais parce que c'est vraiment catastrophique. Donc d'abord, c'est une mesure discriminatoire puisque, vous avez compris, il n'y a que les binationaux qui peuvent faire l'objet d'une déchéance. Bon, les binationaux qui commettent des crimes très graves liés au terrorisme. Sachant tout de même que Nicolas Sarkozy, hier, a dit qu'il n'adopterait, enfin, voterait la mesure que si ça concerne aussi les délits. Donc ça serait une sacrée extension de la possibilité de déchéance. En termes d'efficacité de lutte contre le terrorisme, c'est néant, tout le monde le sait. Donc évidemment, de toute façon, la plupart du temps, maintenant, ils se font sauter, donc le problème se pose même pas. En revanche, en termes symboliques, c'est catastrophique, parce qu'on crée vraiment deux catégories de Français. On rompt radicalement avec les principes républicains. Tout ça est vraiment inacceptable, et je pense que le président de la République et le gouvernement devraient abandonner ce projet de constitutionnalisation de la déchéance, qui est vraiment profondément contraire aux valeurs de la gauche, aux valeurs de la République. J'espère que la majorité sera pas trouvée là-dessus, sachant qu'à mon avis, c'est tout de même une erreur stratégique, parce que la constitutionnalisation de l'état d'urgence pouvait très bien être adoptée quasiment à l'unanimité du Parlement. Avec cette question-là, il y a tout de même beaucoup de députés de gauche qui se posent la question de voter cette réforme.
Jean-François Daguzan et Jacques Foulroux, sur cette question de la déchéance de la nationalité par
les nationaux. Oui, l'efficacité, nous sommes d'accord, elle est nulle dans la lutte antiterroriste. Après, je reste un peu, là aussi, circonspect sur cette accumulation de mesures qui sont censées donner la démonstration d'un État agissant et qui, pour le coup, relève plus de la gestion que d'une opérationnalité quelconque.
Alors, Jacques Foulroux, pour conclure.
Oui, non, personne. Je pense que personne ici autour de cette table ne conteste le droit à un État de se défendre, de se doter des moyens nécessaires. Mais de nouveau, cette mesure, elle s'intègre vraiment dans le catalogue des précipitations. La France aujourd'hui, ça fait plus de 200 ans qu'elle se fait pas à pas au nom d'un certain nombre de valeurs, que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est le fruit de toute cette histoire. Donc, c'est difficile de pas y voir des considérations tactiques politicienne avec un agenda que tout le monde a en tête. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'était, mais je pense qu'on peut ranger la déchéance un peu au même registre que la déclaration un peu péremptoire du Premier ministre quelques jours après les attaques du 13 novembre à l'Assemblée, faisant état d'un risque d'armes chimiques. Quand on rentre dans le détail de ce qui a précédé cette annonce, cette déclaration, on voit que ses plus proches conseillers, quand on leur demande, mais expliquez-moi d'où ça vient, il y a cette phrase, qu'est-ce qui a fait basculer au nom parmi un tas d'autres arguments, le fait qu'il prononce ces mots-là, la phrase elle est la suivante, on ne pourra pas dire que Manuel Valls ne l'a pas dit. Voilà. Donc la déchéance, c'est on ne pourra pas dire que ça n'a pas été fait si d'aventure il arrive quelque chose. Voilà. Donc faute de pouvoir anticiper, d'être sûr d'anticiper une menace, on protège son image et on protège finalement son sort politique.
Alors j'avais prévu que l'on évoque aussi les conséquences géopolitiques des attentats avec les alliances nouvelles de la France, notamment avec la Russie dans la lutte contre Daesh en Syrie. Nous aurons d'autres occasions de le faire avec à propos de la prochaine réunion, si elle se tient à Genève, autour de la Syrie. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, directeur de la revue Maghreb Machrek et auteur de plusieurs ouvrages dont La fin de l'État-nation, point d'interrogation de Barcelone à Bagdad, aux édition du CNRS, Jacques Foulroux, journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste des questions sécurité et terrorisme, et auteur de nombreux ouvrages également, dont Démocratie sous contrôle, La victoire posthume d'Oussama Ben Laden, et Serge Slama, maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Ouest, La Défense, membre du CREDOF. Je signale également, pour aller plus loin, le dernier ouvrage de notre confrère d'Alternative économique, Yann Mince, 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, qui vient de paraître aux éditions Les Petits Matins. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. Demain, Géopolitique sera consacrée à Taïwan, dans la perspective des élections générales du 16 janvier prochain, et notamment élections présidentielles. À demain.